Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, éditrice, éditeur, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un livre des livres, Un livre des livres, le podcast consacré à la littérature. Dans ce numéro consacré à la bande dessinée, vous n'allez pas avoir une review des coups de cœur du moment. Mais je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur.
Oh, c'est pas si mal!
Merci David. Lors du dernier festival d'Angoulême, grâce à la délicieuse Valentine Véron, que je remercie très fort, qui travaille chez Fluide Glacial, j'ai pu rencontrer un bon nombre d'auteurs, et parmi eux, Fabrice R. Ancien enseignant d'histoire, que des gens bien, ses profs d'histoire.
Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!
Aimant tous les registres d'humour et les manipulant avec une excellente maîtrise, il a su user de toutes ses passions pour en alimenter sa création artistique. D'ailleurs, dans celle-ci, il s'amuse souvent à poser un regard critique sur la société ainsi que sur son ancien métier. Mais toujours avec délicatesse et humour. Il est tour à tour scénariste, apprécié de ses pairs, multipliant les collaborations, mais aussi dessinateur aux traits caractéristiques tout en rondeur. Son dernier travail, en collaboration avec Gilles Rochier, est une adaptation des Trois Mousquetaires, paru chez Casterman à l'occasion de la sortie du film du même nom. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'il m'a gentiment accordé lors de ce festival et on se retrouve tout de suite après. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir sur le festival d'Angoulême. Comment s'est passé le festival ?
Ah bah très bien. On a le sentiment d'avoir retrouvé un petit peu le festival normal. Enfin, avec le Covid, l'an dernier, le festival a été décalé. La fréquentation n'était pas tout à fait la même. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait vécu. Et là, cette année, il y a eu une très très grosse fréquentation. Enfin, en tout cas, sous les bulles, dans les rues, là, c'était très difficile de se déplacer. Mais ça fait plaisir, quoi. Enfin, je veux dire, on a vraiment l'impression que la bande dessinée est très, très vivante, quoi.
En effet, parce que selon les derniers chiffres qu'on a eus dans la presse, parmi les livres les plus vendus, ce sont des bandes dessinées, ouais. De plusieurs sortes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait à vous en tant qu'auteur ?
Bah, moi, je trouve ça formidable parce que j'ai toujours lu de la bande dessinée. C'est ça d'abord qui donne envie d'en faire, évidemment. Et j'appartiens à une génération qui commence déjà à être ancienne, ça y est, quoi, du 20e siècle, où le statut de la bande dessinée était... Je dirais pas qu'il était mauvais, parce qu'il y a toujours cette image d'Épinal qu'on disait que c'était la lecture pour les idiots. C'est pas le cas. Enfin, moi, mes parents en avaient, m'en ont fait lire. Mais c'était plutôt assimilé à quelque chose qui était de l'ordre de la détente et puis qui avait pas beaucoup de fond. Et là, il y a les livres dont on a parlé, les auteurs et les autrices dont on parle ces dernières années, sont des gens qui créent des œuvres qui vont plus loin. Il y a eu Catherine Meurice qui est entrée aussi à l'Académie des Beaux-Arts. Enfin, il y a une sorte de reconnaissance institutionnelle, mais qui traduit vraiment une transformation de la bande dessinée vers un domaine artistique et médiatique aussi, qui lui fait prendre de la maturité. Et je trouve que c'est super, quoi, parce que ça ouvre des possibilités encore considérables. On a l'impression que depuis 30 ans, il y a une révolution de la bande dessinée, qu'elle ne s'arrête pas, en fait.
Alors, on va parler un peu plus de vous maintenant, parce que vous avez contribué aussi un peu à cette évolution de la bande dessinée, avec votre parcours. Comment, avant de parler de ce parcours et de votre actualité, comment s'est passée votre rencontre avec la bande dessinée ?
Alors, ma rencontre comme lecteur depuis toujours, moi j'ai appris à lire quasiment là-dedans. Du coup, il n'y a pas vraiment de transition, comme j'en ai toujours fait. Ça m'a paru complètement naturel, en fait. Ce qui me paraît bizarre, ce qui m'a pas bizarre en grandissant, c'est d'avoir l'impression que d'autres gens n'avaient pas ce rapport-là, en fait. Voilà, qu'ils n'avaient pas le besoin de s'exprimer en dessin ou de lire des bandes dessinées. Donc pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Professionnellement, ça n'a pas été naturel, par contre, parce que c'est une activité qui, là, pour le coup, encore aujourd'hui, reste un domaine professionnel qui semble étrange, quoi, d'une manière générale. Les auteurs, on sait que c'est un statut qui peut être très fragile et un destin qui est très incertain. Mais finalement, hein, le pratiquant se rend compte aussi voilà, que c'est, ça peut être aussi une carrière professionnelle, mais qui se construit petit à petit. Voilà. Enfin, moi, je n'ai pas de diplôme pour faire de la bande dessinée. J'y suis entré petit à petit par un éditeur qui s'appelle Six Pieds Sous Terre, qui a accepté mon premier projet que j'avais fait en 1999. Ils ont mis un certain temps d'ailleurs avant de me rappeler. Voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui s'installe doucement. Et puis une fois qu'il est lancé, qui est très stimulant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un premier livre, il y a quelque chose qui s'enclenche, on comprend mieux comment ça se fabrique, on voit mieux les erreurs qu'on a pu faire dans l'approche de cette construction. Et au bout du compte, moi c'est un espace qui me paraît infini là aussi à explorer en tant qu'auteur. Je parlais tout à l'heure en tant que lecteur, que c'est vraiment très ouvert. Et en tant qu'auteur aussi, ça donne envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, depuis 30 ans, c'est une pratique qui a commencé très personnelle et maintenant qui est de plus en plus insérée dans des relations aussi avec des amis avec qui je travaille, comme Fab Caro, comme Gilles Rochier actuellement, avec mon frère aussi qui est écrivain. Voilà, c'est une activité qui a pris de plus en plus de place dans ma vie, alors que c'était déjà quelque chose d'assez fondamental dans ma vision du monde.
Alors on va parler de vos différents albums, parce que vous avez touché un peu à tous les genres, notamment pour les jeunes. Oui. Me semble, avec une histoire qui a été prépubliée dans le magazine de Spirou.
Alors, je travaille pour Spirou, et là, effectivement, c'est quelque chose d'assez récent, c'est-à-dire de faire de la bande dessinée pour la jeunesse, puisque Spirou est plutôt à leur destination, même si on se rend compte que beaucoup de lecteurs continuent de le lire tout au long de leur vie, ce qui demande évidemment une approche un peu différente. J'ai fait grandir ma pratique de la bande dessinée avec moi-même, donc en grandissant, j'ai abordé des sujets différents. Je fais surtout de l'humour, donc c'était aussi un humour qui évoluait, qui devenait soit plus absurde, donc moins évident, soit plus costaud, avec un personnage comme Guide Sublime, par exemple, où là, j'ai essayé de traiter des sujets un peu tendus, quoi. Et là, voilà, il faut essayer de revenir à un langage qui soit plus compréhensible pour les plus jeunes. Mais c'est un travail qui est passionnant et puis qui a rejoint un petit peu le métier d'enseignant aussi que j'ai fait pendant une vingtaine d'années, parce que la bande dessinée peut être aussi pédagogique. Et donc chez Dupuis, effectivement, il y a une collection qui s'appelle Le fil de l'histoire d'Ariane et Nino, qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et qui explore des domaines historiques bien ciblés dans lesquels on a l'ambition de faire le tour de la question sur les grandes lignes pour qu'ils essaient de comprendre un sujet en particulier, les Vikings, la muraille de Chine ou des sujets plus complexes comme les guerres, par exemple. Là aussi, c'est un travail qui est formidable parce qu'à chaque fois, on se sert du texte et de l'image. C'est ce qui est formidable en bande dessinée, c'est cette association. Parce que ça crée quelque chose de supplémentaire au milieu, en fait. C'est-à-dire qu'une bonne bande dessinée, je pense, elle est capable de faire en sorte que le cerveau parcourt les deux et que ça crée un espace de compréhension qui n'existe pas ailleurs, en fait.
Et comment est venue cette idée de série au fil de l'histoire ?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a été imaginé par un éditeur, qui est Frédéric Nifle, qui a été rédacteur en chef de Spirou pendant longtemps, qui continue d'ailleurs à y être directeur artistique, qui est éditeur chez Spirou, et qui voulait, il tenait vraiment à aborder les questions d'histoire à destination des plus petits. Et donc c'est lui qui a formé l'équipe. Avec Lewis Trondheim, ils ont travaillé sur le concept, l'idée en fait de comment amener les enfants vers le passé. Ils en ont parlé à Sylvain Savoya, qui est le dessinateur, qui est formidable, qui est très virtuose et qui est capable d'aller d'un dessin très réaliste à un dessin, ce qu'on appelle jeunesse. Il a fait une série qui s'appelle Marzi, par exemple. Et là, c'est très bien parce que justement, ça parle de deux enfants qui sont capables de voyager dans le passé. Ils n'ont pas de machine à voyager dans le temps, c'est par évocation, mais donc de côtoyer des scènes historiques. Et là, le dessin de Sylvain peut dessiner de manière très réaliste les tranchées, par exemple, et ces deux enfants qui font un lien avec le lecteur qui est très efficace. Et donc, moi, je suis arrivé en dernier. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse scénariser ça et qui puisse aussi être sûr quand même du fond historique, parce qu'on veut être très très exact là-dessus. Et comme j'ai une formation d'historien, ben voilà, ça s'est bien passé.
Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir pour travailler avec la jeunesse ?
Depuis que j'ai même 23 ans, je travaille avec des jeunes en tant que prof. Là, je me suis mis en pause, mais c'est un rapport que j'ai toujours beaucoup aimé, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de curiosité chez les plus jeunes. Et ils ont une qualité formidable, c'est que comme ils n'ont pas été au contact du monde beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'idées reçues, en fait. Et des schémas de pensée qui sont difficiles à enrichir, en fait. Je vais être un peu désabusé, mais je trouve que c'est très difficile de parler avec des adultes de sujets complexes. Ça peut paraître curieux, mais beaucoup de gens, et j'en fais partie aussi, je veux pas m'y... Voilà, on a construit notre façon de voir le monde. C'est très dur de confronter les idées Surtout quand on est historien, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de questions historiques qui ressurgissent, qui créent des polémiques en permanence. Et on se heurte à des murs, quoi. On voit par exemple le développement du complotisme aujourd'hui, qui est lié à ça, que c'est-à-dire une fermeture d'esprit, une incapacité de discuter et des idées reçues qui sont acceptées comme telles, quoi. Avec les enfants, il n'y a pas ce principe-là, même si le complotisme a tendance à les attirer. Mais tout simplement, je pense, parce que c'est souvent des théories qui sont très simples, en fait, et qui ont un côté un peu magique. C'est-à-dire qu'on apporte une explication très simple aux choses, et souvent très décalée, très étrange, quoi. Donc ça a un côté très attractif. Mais le rapport que j'ai eu, moi, aux élèves, en tout cas, c'est qu'ils se posaient des questions et qu'ils étaient prêts à écouter des réponses, quoi. Et voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment formidable de s'adresser à la jeunesse pour ça. Et après, il y a aussi une autre chose, c'est qu'en festival, par exemple, quand on a des enfants qui viennent nous voir, c'est très différent pour les dédicaces, parce qu'ils vous parlent vraiment de ce qu'ils ont lu, ce qui leur a plu. Il y a un rapport qui est très direct à l'histoire qu'on a dessinée, au dessin lui-même, et qui n'est pas dans le rapport avec l'auteur, par exemple. C'est très simple, c'est très, très revigorant.
Alors, toujours dans le domaine de la jeunesse, il n'y a pas si longtemps est sorti le tome 1 d'une série, Les drôles d'aventures de Papilus.
Oui.
Papilucien.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous m'en dire davantage sur ce projet-là?
Alors ça, c'est un projet aussi qui a un rapport avec l'histoire. Il s'agit de parler de la Deuxième Guerre mondiale aux enfants. Mais alors là, le parti pris est très différent, puisqu'il s'agit de le faire avec des aventures, donc quelque chose d'un petit peu rocambolesque, avec le pari aussi de le faire de manière assez légère, en tout cas au début. Donc dans une sorte de tradition un petit peu de la grande vadrouille. Et là, l'idée, c'est de parler de deux personnages, un grand-père qui a fait la guerre de 14 et son petit-fils qui se retrouve plongé dans cette guerre, qui traverse des événements. Alors, tous les événements qu'il traverse sont datables et ce sont des événements de la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, c'est donc de parler de ce qui s'est passé là, mais à travers de la fiction, là, pour le coup. L'idée de départ, on va voir si on la tient jusqu'au bout, parce que ça va demander pas mal de travail, c'est de faire un tome par année pour essayer de donner une couleur à chaque année de la guerre. Souvent, c'est un peu difficile de se repérer dans ce conflit. On a tendance à un peu tout mélanger. Les questions de résistance ne sont pas du tout les mêmes en 40 ou en 44, par exemple. La question des persécutions contre les Juifs non plus. Il y a une intensité qui change. Et puis les questions aussi de combat, puisque en 40, la France a été combattante, puis elle a perdu la guerre. En 44, 45, elle est considérée comme un vainqueur de la guerre. Donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre là, et qui est assez complexe pour les enfants. Chaque tome devrait être fondé sur un voyage qui permet justement de traverser ces événements. Dans le premier tome, moi je suis parti d'une idée que je trouvais drôle. C'était que nos deux personnages sont dans le sud de la France. Ils apprennent la capitulation par le gouvernement de Pétain. Et le lendemain, ils entendent l'appel de général de Gaulle, hein, ce qui est historique. Hein, effectivement, ça s'est passé le 17 et le 18 juillet. Excusez-moi. Et donc, ils veulent partir à Londres. Billes en tête, comme ça. Voilà. Ce sont deux personnages qui sont un peu lunaires. Et sauf qu'ils se retrouvent complètement à contre-courant de l'exode, de l'avancée des Allemands, et puis qu'ils ne savent pas très bien comment ils vont arriver jusqu'à Londres, mais ils finissent par y arriver. Voilà. Dans le deuxième tome, ils partent sur l'océan Atlantique pour rejoindre les territoires en Afrique qui ont rejoint la France libre. Ça me paraissait important d'en parler aussi, puisque c'est l'Afrique qui a été le premier bastion, en fait, de reconstruction des forces libres. À Londres, ça a été le nom du général, mais il a fallu reconstituer des forces, et c'est en Afrique que ça s'est passé. Et donc, dans le deuxième tome, on parle de la bataille de l'Atlantique, qui était aussi un enjeu très important, où les nazis ont essayé de tenir à distance les ravitaillements alliés. Et puis, dans le troisième, ça va se passer en Afrique, justement. On va essayer d'avancer comme ça, jusqu'à la fin de la guerre. Évidemment, on va essayer de faire évoluer le ton, parce que plus on avance, plus on va aborder des questions qui sont humainement difficiles aussi. Il ne s'agit pas de faire croire aux enfants que la guerre, c'est juste un truc héroïque ou rocambolesque, quoi. Voilà. Déjà, on l'a traversé comme ça, comme une espèce d'aventure humaine. Mais il y a aussi eu, évidemment, c'est avant tout une aventure dramatique qu'il faudra aborder.
Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de jeunes lecteurs sur cet album-là?
Pas trop. Il est sorti au mois de mai. J'ai eu très peu l'occasion de faire des festivals. Alors en plus, je suis que scénariste là-dessus. Dans les festivals, on n'invite pas beaucoup les scénaristes. C'est TM qui a fait le dessin. Donc je devrais le voir bientôt. Là. Alors il était là ce week-end, j'ai pas pu le voir. Pour en parler un petit peu, voir comment lui il a reçu. Ouais.
Alors parmi vos multiples projets, il y en a un pour lequel vous avez eu une estime de la part de votre corps de métier original. C'était une année au lycée. Comment c'est venu ?
Ça, c'est venu de manière détournée, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui faisaient de l'autobiographie. Et c'est un truc qui me paraissait complètement impossible, moi. Se mettre en scène soi-même, c'est quelque chose de... que je trouvais très, très difficile à envisager. Et là, finalement, j'avais commencé à faire des gags avec un prof et des élèves pour un projet qui s'est jamais fait de revue numérique. Mais en faisant des gags comme on les construit d'habitude, c'est-à-dire réfléchissant de manière théorique sur ce qui pourrait se passer. Et puis ça marchait pas très bien. Et un jour, je me suis dit, tiens, ben, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé en classe. Et ça marchait beaucoup mieux. Et j'ai poursuivi comme ça jusqu'à, finalement, le faire quasiment au jour le jour sur le blog qui est publié sur le site du Monde, où ce qui arrivait un jour ou dans la semaine, j'y réfléchissais pour en rendre compte de manière plutôt légère, là aussi, mais que ça puisse parler de ce qui était la réalité en classe, quoi. Voilà, j'aime pas beaucoup les séries qui existent sur le corps enseignant, de gens qui sont extérieurs, parce que c'est une manière de véhiculer des clichés qui sont, comme tous les clichés pour tous les groupes, assez pénibles à vivre. Parce que quand on est prof, on ne cesse de nous parler de nos vacances, de nos protections de l'emploi, etc. Bon, c'est d'abord une aventure humaine d'être prof, c'est se retrouver tous les jours devant une trentaine de personnes qui sont tous différents, qui n'ont pas choisi d'être là, avec qui il faut construire quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment formidable, quoi. Et c'est pas facile, mais c'est aussi super stimulant. Donc je voulais parler de ça.
Oh, c'est une belle idée. En toute subjectivité.
Oui, ben oui, je me doute. Non, mais ce qui m'a beaucoup plu par contre là sur le retour, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de mes collègues. Et je me suis rendu compte qu'avec les collègues, on ne parlait pas beaucoup de ce qui nous arrivait en classe. Soit qu'on le soit une souffrance, soit que ça ne nous paraît pas digne d'en discuter. Et puis que des fois aussi, en salle des profs, on a envie de parler d'autres choses. Et en faisant ça, en le faisant au jour le jour, je me suis rendu compte qu'on vivait très souvent les mêmes choses, en fait, au même moment, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Parce que les élèves sont dans un état d'esprit particulier, nous aussi. On n'est pas pareil en début d'année que juste avant les conseils de classe. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et ça a été très intéressant de parler de cette respiration d'une année scolaire et du coup de le partager avec mes collègues.
Alors vous maniez quand même différents types d'humour, que ce soit pour des albums qui sont sortis chez Fluid ou chez Six Pièces Sous Terre. Ce registre humoristique, vous y tenez beaucoup ?
Oui, pour moi il est essentiel. C'est vraiment... Je le quitte pour des projets comme Ariane et Nino, parce que ça, c'est pas le lieu. Mais même là, j'ai de temps en temps, j'ai mes petits trucs. Et je me suis rendu compte avec le temps pourquoi. C'est que... Moi, je trouve qu'il y a une très grosse ambition autour des questions humoristiques. Et d'ailleurs, ça génère beaucoup de polémiques depuis plusieurs années. Certaines que je trouve inquiétantes, parce que il y a des critiques qui estiment que l'humour n'a pas sa place dans certains domaines. Et je pense que c'est exactement le contraire. Voilà. L'humour, il est fondé sur le décalage. C'est parce qu'il y a un décalage à un moment qui se produit, qu'il y a un effet comique qui se crée. Et le décalage, c'est aussi la prise de distance, donc l'esprit d'analyse, quoi. Et à titre personnel, quand je ne comprends pas quelque chose, ben, j'essaie de le passer par ce prisme-là. Et c'est comme ça que j'essaie de l'analyser, sans que ça devienne un truc pénible, conflictuel. Voilà. Le dernier livre que j'ai fait chez Six Pieds Sous Terre s'appelle « Mal dominant ». Ça parle de ma position d'homme blanc que j'ai découvert sur le tard. J'ai pas honte de le dire. Voilà, moi, j'ai deux filles et quand elles sont devenues des grandes ados, ben, m'ont fait comprendre qu'il se passait des choses et qu'il fallait écouter d'autres voix et puis qu'il fallait aussi réfléchir sur ce qu'on était. Et puis, ça s'est trouvé que c'était en même temps, elles sont de cette génération, que MeToo, que beaucoup de mouvements qui sont venus des États-Unis et puis qui ont généré beaucoup de débats dans le milieu de la bande dessinée également. Et alors là, on voit les crispations que ça génère. Moi, je trouve ça catastrophique. C'est-à-dire, si on rentre dans des crispations, ça bloque le débat. Donc, à titre personnel, l'humour, là, voilà. Et là, je trouve, pour mettre à distance tout ça. Et je trouve ça terrible que souvent, ce soit pris comme une attitude condescendante. Ça peut l'être, c'est vrai. Il faut arriver à le manier d'une autre façon, de manière qui puisse au contraire faire avancer les choses. Voilà. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un point essentiel. Je l'ai étudié en tant qu'historien. J'ai fait ma thèse sur la presse satirique et j'ai mesuré de manière vraiment historique, scientifique, je dirais, parce qu'on fait une thèse, c'est quand même contrôlé par nos enseignants, par nos pairs, que cette presse, elle a joué un rôle important dans notre construction démocratique, dans le débat public. Donc c'est pas juste une lubie, quoi, de quelques individus qui prennent un pouvoir pour se moquer des autres. C'est quelque chose qui doit être manié par tout le monde aussi. C'est une tarte à la crème, mais voilà, ça doit être plus sérieux.
Cet album sur le mâle blanc dominant, 40 ans, 50 ans, c'est venu comment, ça?
De ces questions que je me posais, du moment très désagréable en fait, c'est-à-dire qu'au début quand on vous dit toi tu es privilégié parce que c'est un homme blanc, alors que toute votre vie vous ne l'avez pas vécu comme ça, c'est-à-dire que de votre point de vue, bah, vous avez travaillé pour avoir vos examens, pour être un citoyen qui respecte ses semblables, pour prof, pour donner une partie de votre vie, pour éduquer des jeunes, objectivement, vous vous dites j'ai fait des efforts quoi. Mais objectivement aussi, et ça on le voit pas tout seul, on n'a pas eu à surmonter un certain nombre d'autres choses. Et c'est intéressant de se confronter à ça. Au début, ça génère des réactions qui peuvent être violentes. On se dit, mais pourquoi on me dit ça? J'ai rien fait de mal, etc. Donc moi, ça a été ça. J'ai eu besoin d'y réfléchir et d'essayer de comprendre ce qu'il y avait de légitime dans tout ça. Pourquoi il fallait se regarder différemment. Et je refuse l'idée d'être dans une démarche, comment on appelle ça quand on... De repentance, voilà. La question, c'est pas de soulever des culpabilités, à mon avis, mais de prendre conscience des choses et d'en discuter tous ensemble. Voilà, du coup, j'ai lu pas mal de bouquins, voilà, des trucs comme Le privilège blanc des États-Unis. Enfin, c'est un livre, par exemple, où je me suis dit, je n'ai pas compris l'intérêt de ce truc, qui est justement, il faut se taire, hein, il faut se mettre en retrait, il faut se mettre... Ça n'a pas de sens, en fait. Je pense que ce que revendiquent les gens qui demandent plus de visibilité, c'est pas de mettre des autres à genoux à leur tour, quoi. C'est juste au contraire qu'on soit tous capables de se parler. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question.
Ça répond très bien à la question. Alors, concernant la construction graphique de cet album-là, ça change par rapport à d'autres travaux que vous avez pu faire, dans le sens où on a une espèce de stand-up,
ouais,
où vous incarnez un petit peu.
Oui, c'est un stand-up dessiné. Donc là, c'est une expérience bande dessinée qui permet beaucoup d'expérience. L'éditeur aussi, 6 pieds sous terre, qui a été tout de suite, m'a dit, ah bah ouais, c'est marrant comme idée, enfin, c'est... Il faut voir comment ça se fait, parce qu'un homme qui parle tout seul pendant 100 ou 200 pages, ça peut être difficile d'accrocher le lecteur, mais du coup, la bande dessinée permet de faire des digressions, donc c'est le cas dans le bouquin. Et ça m'a paru important de prendre ça, parce que quand on cherche la forme pour parler d'un sujet en bande dessinée, c'est important aussi, ça véhicule quelque chose. Il se trouve que le stand-up, il me semble, a été un des premiers, justement, modes d'expression à utiliser l'humour pour poser ces questions-là. Parce que les stand-uppers se présentent toujours comme en se mettant en scène eux-mêmes, mais des projections d'eux-mêmes, donc il y a un peu d'eux, il y a aussi de la caricature qui rentre en jeu. Et les questions d'identité ont été posées très tôt là-dessus. Même en France, et c'est venu des États-Unis, même en France, enfin aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, ça remonte très loin. Eddie Murphy le faisait. Et en France, il y a eu le Jamel Comedy Club qui a importé ça, la question de savoir qui on était, comment, d'où on parlait, etc. Et donc je me suis dit c'est peut-être le bon moyen de se mettre en scène comme ça. Et là aussi de parler, de s'impliquer, de parler un petit peu en son nom, de bâtir un personnage dans lequel j'ai pu mettre des choses qui étaient effectivement de ma propre expérience. Je parle de mon expérience de prof en banlieue parisienne. Voilà, bon, ça a été un des moments justement où j'ai confronté ma position à celle d'autres gens qui venaient de milieux plus populaires. On arrive là, on se dit, mais pourquoi ils n'écoutent pas ces gamins, ils sont pas polis. Bah oui, sauf que voilà, leur vie, c'est pas du tout celle qu'on a vécue. Leur origine sociale, ethnique, leur histoire n'est pas du tout la même. Donc ce sont des moments où on peut y réfléchir.
Est-ce que vous avez déjà en tête vos futurs projets?
Oui, il y a plusieurs choses qui sont en cours, très différentes aussi. Il y a une grosse production cinématographique qui est prévue pour cette année, qui est l'adaptation des Trois Mousquetaires de Dumas en super production sur deux films. Il se trouve que la production des films s'est associée à Casterman pour accompagner ces sorties de films, de sorties de bande dessinée. Il y aura un manga qui reprend la trame du film, qui était assurée par une équipe. Et on nous a demandé à Gilles Rochier et moi de faire des livres plus légers, enfin de gags et de mettre en perspective ces mousquetaires en les réactualisant un petit peu. Donc nous, on ne suit pas vraiment la trame du film, juste un petit peu leur esthétique. On a fait un premier tome, il y a un deuxième tome en préparation pour le deuxième film. Et alors ça m'a beaucoup intéressé parce qu'au début, je me suis dit, ouais, réactualiser les Trois Mousquetaires, enfin, ça se passe pas aujourd'hui, hein, mais l'idée, c'est d'avoir un ton qui soit plus actuel. Je trouvais ça un petit peu artificiel. Et puis, en fait, j'ai lu les Trois Mousquetaires que j'avais jamais lu auparavant. Et je me suis rendu compte à quel point c'était très loin de l'interprétation qu'elle avait été faite dans les années 40-50, où c'était fondé sur une espèce d'esprit chevaleresque et puis un truc un peu... Enfin, qui est très suranné aujourd'hui. Alors qu'en réalité, le livre original, c'est une espèce de western au XVIIe siècle, avec des personnages qui sont pas du tout lisses. Athos qui est un poivreau, D'Artagnan qui est une espèce de racaille qui veut se battre tout le temps et qui pense qu'à une chose, c'est la gloire. Et du coup, j'ai trouvé que c'est une très bonne idée de la part de Casterman d'avoir pensé à Gilles Rocher pour écrire ce livre. Parce que Gilles Rocher parle beaucoup de la banlieue, de ce type de rapport au monde qui est un petit peu dur, quelque chose que moi je connais pas trop. Et ça colle très très bien, je trouve, justement, avec cet esprit originel des mousquetaires. Après, j'ai un autre projet important cette année que je dois finir. Je ne sais pas s'il pourra sortir cette année, qui est un des tomes de l'histoire de France qui est publié par La Découverte et La Revue Dessinée, qui porte sur le 19e siècle. Donc là, je vais bientôt commencer le dessin, et c'est 110 pages à peu près. Et ça, c'est un projet intéressant aussi, parce que cette collection, elle est très bien, puisque chaque tome est confié à une équipe différente, un universitaire et un auteur de bande dessinée, et qu'on est très libre de la manière dont on veut traiter la période. La seule contrainte qu'on nous demande, c'est de ne pas être trop linéaire, justement, pas trop classique, et de choisir un angle de vue, ce que je trouve très courageux, et que les résultats sont souvent très intéressants. Voilà, ça c'est les grands projets, puis je continue à Flic Glacial, à Spirou, des publications régulières.
Un homme bien occupé.
Oui, c'est très occupé, oui.
Fabrice, merci beaucoup.
Merci beaucoup, à vous.
Comme vous venez de l'entendre, Les Trois Mousquetaires, revus et corrigés par Rochier et R, est une relecture tout en restant dans l'esprit de l'œuvre de Dumas. En effet, celle-ci est davantage connue par ses adaptations cinématographiques, nombreuses, variées, diverses et parfois pas vraiment réussies. Pour ma part, celle que je préfère, c'est celle des Charlots. Il y en a même une qui existe avec David Hasselhoff transposé aux États-Unis dans les années 90, où ce sont les descendants des mousquetaires qui chevauchent des Harley Davidson. C'était complètement what the fuck. Je pense que c'est pas du tout trouvable en VHS ou sur les plateformes vidéo, mais vaut mieux que ça reste un lointain souvenir. Donc quand on la re-regarde, c'est vraiment assez pourri. Ici, c'est pas du tout le cas, vu qu'on est dans cet angle d'attaque qui va user des anachronismes, leur coller des caractères à la fois modernes tout en respectant les caractères de départ dans l'œuvre de Dumas, comme vient de le dire Fabrice dans l'interview. On se retrouve avec un D'Artagnan qui est un adolescent boutonneux, bagarreur, qui prend des postures d'ado à la Joule, avec ses « et bim !» Il n'en devient complètement insupportable tout au long de l'album, tant et si bien que les autres aussi le trouvent vraiment insupportable, les autres personnages j'entends. Cardinal de Richelieu est toujours aussi machiavélique, mais il y a plus fort que lui dans l'album, en effet, Milady, qui est une féministe enragée qui va complètement user de, à la fois de ses charmes, mais également de la violence, et assez souvent d'ailleurs, pour parvenir à ses fins, essayer de convaincre les autres protagonistes masculins de la réalité de son combat. Ce qui n'est pas plus mal, la scène où elle demande à D'Artagnan de la regarder dans les yeux est carrément savoureuse. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié dans l'album, c'est le fait de couper la linéarité du récit par des tranches de vie d'Alexandre Dumas lorsqu'il est en train d'écrire Les Trois Mousquetaires, où il est souvent interrompu par sa compagne, ce qui va l'influencer sur la suite des aventures. C'est carrément rigolo. Donc c'est un album qui est fortement plaisant, vu qu'il s'adresse à tout type de lecteurs, que ce soit des jeunes lecteurs ou des lecteurs plus âgés qui connaissent déjà un petit peu l'univers de Dumas. C'est vraiment drôle, le dessin de Fabrice R ici colle parfaitement au personnage. C'est un gros coup de cœur pour cette période. Je vous invite vraiment à découvrir ce tome 1 des aventures des Trois Mousquetaires, la BD presque officielle. La petite pastille sur l'album qui le mentionne. Il y aura un tome 2 lors de la sortie du second film. Je l'attends avec impatience. Chers amis, il est temps de se quitter, c'est la fin de ce podcast, j'espère vous retrouver très vite, n'hésitez pas à vous abonner sur PodCloud et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt !